Libre Radio, la radio qui ronronne à ton oreille.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'antenne de Libre Radio pour le CLS de ce dimanche 23 octobre 2022. Avant de commencer nos lectures, on va faire une petite introduction en l'honneur de William. Une introduction qui est en lien avec le 18 octobre et vous comprendrez pourquoi à la fin. Je te laisse la parole.
Merci camarade. Alors, concernant Amilcar Cipriani, le 18 octobre 1844, naissance d'Amilcar Cipriani à Rimini, Italie. Révolutionnaire garibaldien, internationaliste, communard, puis anarchiste et socialiste. À 15 ans, il s'engage dans l'armée, puis déserte pour rejoindre les troupes de Garibaldi. Fait prisonnier, il s'évade et rejoint la Grèce où il prend part aux insurrections contre la monarchie. Expulsé, il part en Égypte, puis à Londres où il participe à la fondation de l'Internationale. En France, il militera ensuite au sein du mouvement socialiste révolutionnaire. Il meurt à Paris le 2 mai 1918.
Un autre 18 octobre, le 18 octobre 1976. L'assassinat de Laureano Cerada Santos à Paris. Militant et activiste illégaliste anarchiste et anarcho-syndicaliste espagnol. Cheminot, affilié à la CNT depuis 1920, il se montre un militant actif durant la République et prend part les 19 et 20 juillet 1936 au combat de Barcelone et notamment à la prise de la caserne Atarazanas et à l'occupation de la station de Francia. En 1939, après la défaite, il s'exile en France et va prendre une part active à la résistance anti-nazie en organisant et ravitaillant les maquis en armes et en propagande.
Le 18 octobre 1983, mort de Diego Abad de Santillán, de son vrai nom Baudilio Sinesio García Fernández, à Barcelone. Figure importante de l'anarchisme espagnol et argentin.
Le 18 octobre 1893, à New York, Emma Goldman est condamnée à un an de prison pour, je cite, « incitation à l'émeute ».
Le 18 octobre 1956, sortie du numéro 13 du journal anarchiste japonais Le Drapeau Noir, la Nigra Flago en espéranto.
Et enfin, le 18 octobre 1972, à Genève, naissait William Richeputi, alias Camps. Son savoir, son empathie et son œuvre radiophonique ont percuté la vie de tant d'humains.
William Cramps, tueur de boucher, William Cramps.
Rebonjour, nous voilà au CLS, Cercle de lecture sociale, pour parler de Kotoku Shuisui, né en 1871 et mort en 1911. Comment devient-on communiste anarchiste ? Après avoir été l'un puis l'autre, pour mieux en produire la synthèse, le redoutable alliage tenant autant à l'égalité qu'à la liberté, au collectif qu'à l'individu, notre homme est mort pendu à 39 ans, peu avant la Première Guerre mondiale, accusé d'avoir voulu attenter à la vie de l'empereur d'un Japon belliciste. Les militants nippons continuent de le tenir pour l'une des figures de proue de la tradition libertaire. Pionnier du socialisme japonais, Kotoku Shuisui, dont le vrai nom personnel est Denis Giraud, évolua jusqu'à la fin de sa vie vers l'anarcho-syndicalisme. Il exerça sur le mouvement socialiste du Japon une influence de premier plan par ses brillants écrits. Son nom reste associé au complot de haute trahison de 1910, dont on ne sait s'il exista vraiment, mais qui servit de prétexte à l'exécution de Kotoku et de 11 autres anarchistes. Il a fallu attendre 2010 et la publication d'une lettre de sa deuxième femme pour qu'il soit totalement innocenté de ce qu'on lui reprochait et ce qui le mena à la mort. Je voudrais, avant qu'on commence à lire les textes d'époque, simplement lire un petit texte de son dernier jour. Il est 8h du matin et Shuisui Kotoku fume calmement sa dernière cigarette au pied de l'échafaud. La mort est pareille à un nuage sur une lointaine colline. Vu de loin, il ressemble à un grand spectre, mais lorsque l'on s'en approche, cela n'est plus rien du tout. Pour un matérialiste, cela signifie simplement que les aiguilles d'une horloge ont cessé de bouger, a-t-il écrit quelques jours auparavant au fond de sa cellule.
Merci, camarade, pour ce beau témoignage. Alors, je vais lire un bout de texte sur l'humanité. Du jeudi 19 janvier 1911. Un verdict sauvage. Kotoku et 23 camarades japonais condamnés à mort par la cour de Tokyo, que fera le Mikado ? Kotoku, sa compagne et 22 de leurs camarades viennent de voir confirmée par la cour suprême de Tokyo l'effroyable sentence prononcée contre eux par la cour préliminaire et qui les livre au bourreau. En dépit des inégalités vraiment monstrueuses qui, depuis le début de cette affaire tragique, ont été accumulées par les gouvernants, en dépit du caractère sinistre des précautions prises pour juger les inculpés à huis clos, nous avions jusqu'au bout conservé quelques espoirs. Devant les protestations accumulées et de plus en plus virulentes, qui se sont élevés de tous les grands centres d'Europe et d'Amérique en faveur de nos camarades, on pouvait espérer que les juges japonais, soucieux surtout de leur réputation de, je cite, « peuple civilisé », progressiste et moderne, reculeraient devant l'atroce barbarie du verdict qu'on leur demandait. Il n'en a rien été. Sans qu'un seul argument sérieux ou un seul fait décisif ait été apporté à l'opinion universelle, troublée à juste titre, sans qu'on ait même tenté d'expliquer les raisons qui ont motivé les renvois des inculpés directement devant la Cour suprême, en les privant des 2 degrés de juridiction auxquels ils avaient un droit absolu. On les a condamnés à la peine capitale. 2 seulement sont acquittés. Sans doute, les agents provocateurs dont les prétendus aveux ont jusqu'ici constitué l'unique base de l'accusation. Et maintenant, le Mikado osera-t-il assumer à la face du monde civilisé la responsabilité de sanctionner le véritable massacre de militants perpétré par ses juges ? Le complot contre sa personne qu'il aurait reproché n'est même pas démontré. Quand bien même il le serait, il est certain qu'il n'y a même pas eu commencement d'exécution et que la mort de 24 personnes pour punir une simple tentative serait d'une cruauté imaginable. Le, je cite, « fils du soleil ferait bien de prendre garde. Nous ne sommes plus au temps où l'on pouvait impunément offrir aux en holocauste aux divinités du ciel et de la terre le sang d'infortunées victimes sacrifiées à la gloire d'êtres extranaturels. Le caractère divin de sa personne n'est plus admis que comme un mythe officiel, même par les plus tardigrades des Japonais. Son caractère mortel est reconnu de tous. S. M. Mutsushito ferait bien de se souvenir du destin fatal des tyrans qui se montrèrent par trop inhumains. Article de Jean Longuet.
On passe maintenant à la lecture d'un article proposé par Le Réveil Anarchiste, donc un journal genevois, et ce numéro date du 21 janvier 1911. L'affaire Kotoku. Nous lisons dans Les Temps Nouveaux de Paris. Malgré que le gouvernement du Mikado ait mis sous boisseau sur la presse japonaise, la vérité y transparaît de toutes parts. Dans le call du 21 décembre, Havel nous apprend que le grand journal de Tokyo, Asahi, tout en fulminant contre les camarades arrêtés, reconnaît qu'il n'existe aucune preuve de culpabilité. Autre aveu des plus importants, le Mainichi d'Osaka, feuille provinciale japonaise qui a la plus grande influence, déclare que le complot tout entier a été ourdi par la police. Enfin, dans une interview avec un représentant du Daily News de Londres, M. Robert Young, rédacteur en chef du Japan Chronicle, organe capitaliste, paraissant au Japon, parle comme suit. Il est nécessaire que vos lecteurs comprennent qu'au Japon, le tribunal de première instance dont les enquêtes sont toujours secrètes, rend sur chaque affaire une décision qui a la valeur virtuelle d'un verdict, mais qu'il ne peut condamner. Des assises publiques doivent venir ensuite, et après les assises publiques vient un appel à un tribunal supérieur. Enfin, on permet un autre appel devant la Cour de cassation dont la décision est irrévocable. Dans le cas de ces 28 socialistes, il faut bien se rendre compte qu'ils n'ont passé que devant le tribunal de première instance et qu'au lieu de subir les trois jugements publics auxquels ils ont droit, leur affaire va passer directement de suite devant la Cour de cassation dont la décision est sans appel. Je ne puis comprendre cette violation de la loi du pays. Elle est inconstitutionnelle et sans précédent. Ce n'est pas tout. Je comprends que la Cour de cassation jugera les 28 hommes et femmes à huis clos, de sorte qu'il n'y aura pas de procès public, pas d'appel et que nous ne connaîtrons jamais les faits. Depuis que ces gens ont été arrêtés, ils n'ont pas eu la moindre possibilité de porter leur affaire à la connaissance du public. Fin de citation. L'infamie des dirigeants japonais est prouvée à l'évidence par les faits ci-dessus. Or, une dépêche de Tokyo du 18 courant nous apprend que le jugement vient d'être prononcé. Kotoku, Miyashita, Sugano et 20 autres doivent être punis de mort par pendaison. Un des accusés est condamné à 11 ans de travaux forcés et un autre à 9 ans de travaux forcés. Serons-nous toujours impuissants ?
Poursuit avec un article de l'Humanité du 20 janvier 1911. Le crime du Mikado. Kotoku et sa femme seront exécutés. L'agence Havas nous communique la dépêche suivante. Tokyo, 19 janvier. Le docteur Kotoku et sa femme seront exécutés. Sur 24 anarchistes condamnés à mort, 12 bénéficient d'une commutation à leur peine en réclusion perpétuelle. Évidemment, Évidemment, les réacteurs japonais ne veulent pas perdre de temps. Ils ont peur que leur proie leur échappe. Ils ont le vertige du crime et ne reculent devant aucun danger. Nous laissons au compte des agences et des correspondants plus ou moins informés le titre d'anarchiste qu'on décerne aux inculpés de Tokyo. Nous savons par expérience que l'ultima ratio des assassins officiels, lorsqu'ils ont la ferme décision de se débarrasser de quelqu'un, c'est d'étiqueter d'anarchiste leur malheureuse victime. Avec un pareil stratagème, ils sont sûrs d'obtenir la solidarité de toute la réaction internationale, la sympathie des lâches et des forbans qui cachent leur peur sous les violences baptisées « actes d'énergie ». Que le Mikado et les gouvernements japonais ne s'y méprennent pas. La dérisoire mesure de clémence qui consiste à commuer la peine de 12 condamnés à mort en réclusion perpétuelle ne suffira pas à excuser leurs crimes devant l'opinion du monde civilisé. Elle montrera au contraire que la terrible sentence qui frappe 24 personnes, dont une femme, a produit des hésitations même dans l'esprit des bourreaux. Et lorsqu'on hésite, lorsqu'on se trouve devant un forfait qui scandalise la conscience universelle, nul homme de cœur, nul gouvernement qui se respecte n'a le droit de frapper. Nous croyons que les fauves et les fous comme Mora n'existaient que dans les pays de Loyola et de Torquemada. Il nous est pénible de constater qu'il en existe aussi dans la nation qui a la prétention de se ranger parmi les plus civilisés du monde.
Maintenant, on va lire un article de l'Humanité du samedi 21 janvier 1911. L'article s'appelle « Le crime de Tokyo, comment Kotoku fut jugé ?» Nouveaux détails sur le procès des révolutionnaires japonais, la défense étouffée, le Japon ravalé à l'état sauvage. Et puis sur cet article, il y a trois petites illustrations. Donc une qui montre l'audience du procès de Tokyo, une qui montre un portrait de Kotoku et sa femme durant le procès, et une qui illustre à l'entrée, on fouille minutieusement les quelques assistants. Donc on voit des gardes, des policiers qui fouillent les personnes, les habits des personnes à l'entrée du tribunal. Donc, notre ami Fabra Ribas a relevé hier, comme il convenait, l'abominable nouvelle qui nous était parvenue en dernière heure de Tokyo, et d'après laquelle le Mikado, jaloux sans doute des lauriers sanglants de son congénère couronné Nicolas II, a décidé de livrer au bourreau 13 des malheureux révolutionnaires frappés par ses juges, parmi lesquels Denjiro Kotoku et sa courageuse compagne. On ne peut trouver d'expression assez forte pour flétrir l'horrible massacre qui va avoir lieu à Tokyo et qui couvrira à jamais d'opprobre les gouvernants infâmes qui l'auront ordonné. Jamais des dirigeants qui affectent d'être si exclusivement préoccupés de la gloire de leur pays ne l'auront plus complètement déshonoré et ravalé au rang de peuplade asiatique barbare. Tous les derniers renseignements qui nous parviennent du Japon accroîtront encore l'indignation ressentie par tous, par tous les hommes de cœur en face de cette nouvelle affaire, ferrée plus atroce encore que celle qui fit clouer à jamais au pilori de l'histoire Alphonse XIII et M. Mora. Des détails peu à peu filtrent à travers les barrières qu'on avait accumulées autour de ce sinistre procès. Ils confirment l'impression d'une justice sommaire et féroce à la façon des conseils de guerre de campagne de la répression russe. Un simple étranglement des accusés. C'est ainsi qu'on apprend de Londres que, contrairement à ce qui avait été prétendu impudemment par l'ambassade japonaise dans le matin, le huis clos fut sans cesse complet. Les avocats du barreau de Tokyo et les diplomates ne furent admis que pendant les interrogatoires qui ne portèrent que sur l'identité des prévenus. Les défenseurs se voyaient sans cesse clore la bouche sous la menace de lourdes pénalités. Les mesures les plus extraordinaires avaient été prises autour du tribunal. Depuis la prison jusqu'au palais de justice, les soldats formaient la haie sur le passage des prisonniers. Les rues étaient barrées et il était interdit de s'approcher du palais à moins d'avoir un laissez-passer. Un juge qui avait négligé de se munir de celui-ci ne put parvenir au palais. À l'ouverture du procès, assistaient de rares personnalités ayant obtenu des cartes. Dans la suite, au cours des audiences suivantes, les mesures de précaution prises autour du palais furent quelque peu relâchées, mais elles devinrent plus sévères que jamais à partir de la sixième séance, car un certain nombre de socialistes s'étaient approchés du palais. Désormais, quiconque s'approchait sans laisser passer devait être arrêté et condamné sur l'heure. Dès la première séance, les avocats avaient protesté contre leur expulsion des débats. Ils demandaient que le huis clos fût levé à partir de la quatrième séance. On leur accorda ceci, une vingtaine d'entre eux, désignés par le président de la cour, assisteraient aux audiences, ou du moins à une partie, car après avoir toléré leur présence pendant une heure ou deux, on les priait ensuite de se retirer. Ce système amena de violentes protestations. Ensuite, les prétendus aveux. C'est avec complaisance que la presse bourgeoise de tous les pays a publié un télégramme officiel, selon lequel les inculpés auraient avoué leur « crime » entre guillemets, et reconnu leur participation au complot contre l'empereur, du moins la majorité entre guillemets d'entre eux. En réalité, il apparaît que ces aveux, je cite, se réduisent à la déclaration d'un libraire qui vint, tout transi de peur, déclarer spontanément qu'il avait, je cite, participé au complot. Pour bénéficier des mesures de clémence que prévoit le code, ce triste sire ajoutait qu'il était prêt à remettre des livres et des circulaires importantes. En fait, il dénonça un certain nombre de militants, tant à Tokyo qu'en province, chez lesquels on trouva en fait de documents secrets, des traductions japonaises du Manifeste des communistes et du Capital de Marx, ainsi que de Tolstoï et de l'admirable autobiographie de Kropotkin, Autour d'une vie. Tout permet de supposer, d'ailleurs, que ce dénonciateur est, comme nous l'avions prévu, un agent provocateur. Un incident émouvant se produisit au cours de la seule audience où le public y était admis. Une jeune américaine, résidant à Yokohama, Mademoiselle Frances Carroll, voulut apporter une magnifique gerbe de chrysanthème à Madame Kano, la compagne de Kotoku. Mais les soldats s'y opposèrent, et à partir de ce moment, le huis clos fut à nouveau complètement déclaré. L'opinion publique et les accusés. On a prétendu dans les cercles japonais officieux que ce huis clos scandaleux était motivé par la nécessité de soustraire les accusés à la fureur de l'opinion publique, disposée à lyncher ces mécréants soi-disant coupables d'avoir voulu attenter au jour du Fils du Soleil. Or, l'agence d'Extrême-Orient, à laquelle nous empruntons la plupart de ces détails, et qui les a elle-même puisés dans l'organe gouvernemental, le Jiji Chimpo, déclare textuellement « l'opinion publique est favorable aux accusés ». Les conséquences du crime. Voilà qui devrait certes faire réfléchir le vicomte Katsura, premier ministre de SM Mutsuhito, et par conséquent son conseiller responsable dans les graves circonstances actuelles. Le crime qu'on s'apprête à commettre à Tokyo nous remplit d'horreur et d'indignation. Mais rien ne saurait davantage favoriser la croissance du sentiment révolutionnaire des masses prolétariennes du Japon, qu'on se flatte de plonger à jamais dans la servitude par l'exécution de cette atroce sentence. Même les 126 000 yens, 300 000 francs, convient encore, d'après ce que nous apprend le correspondant du Vorwärts à Tokyo, de consacrer au développement de la police secrète, ne saurait empêcher la némésis de l'histoire d'atteindre demain les auteurs responsables de l'assassinat juridique de Kotoku, de sa compagne et de 10 autres militants. Un article qui a été également écrit par Jean Longuet.
On continue toujours avec l'humanité, mais cette fois-ci du mercredi 25 janvier 1911. Au Japon, le crime est consommé. Kotoku et sa femme et 10 camarades ont été assassinés hier à Tokyo. Jusqu'au dernier moment, et malgré tout, nous avions espéré que le gouvernement japonais reculerait devant le crime qu'il avait perpétré. Nous avions tort. Dans l'après-midi d'hier, l'abominable forfait a été commis. Notre vaillant camarade Kotoku, sa courageuse et gracieuse compagne Madame Kano et 10 autres militants braves et ardents ont été lâchement assassinés dans une prison de Tokyo. Nous sommes certains qu'ils sont restés dignes jusqu'au bout de la grande cause révolutionnaire, sans un moment de faiblesse, face à la mort dont ils accueillaient l'annonce par les cris héroïques de « Banzai, Hurra » devant la Cour suprême. Ainsi, pour la première fois, le sang des prolétaires jaunes d'Orient coule à large flot pour la grande idée de l'émancipation prolétarienne, pour cette idée sublime pour laquelle tant de prolétaires blancs d'Occident donnèrent depuis plus d'un demi-siècle leurs existences. Ainsi est cimenté d'indestructible façon l'union étroite des travailleurs d'Asie et des travailleurs d'Europe et d'Amérique sous notre drapeau rouge. Rouge du sang de tous les martyrs qui, de Paris à Moscou, de Berlin à Milan, de Varsovie à Barcelone, sont tombés pour la cause de l'effranchissement humain. C'est en vain que le sanguinaire despote Mutsuhito, que ces misérables ministres, le vicomte Katsama et Si, s'efforcent d'accabler leurs victimes sous l'accusation d'anarchisme. Nous savons que si plusieurs de ces martyrs de la Révolution avaient été poussés à l'emploi des moyens extrêmes et aux conceptions simplistes de l'anarchie, la faute était par-dessus tout aux persécutions abominables dont le socialisme japonais n'a pas cessé d'être l'objet depuis 15 ans, c'est-à-dire depuis sa naissance même. Aujourd'hui, le Japon gouvernemental et capitaliste, fier de sa prétendue civilisation moderne, de ses mastodontes, de ses grandes usines, de ses mastodontes cuirassés, de ses canons à tir rapide, de toute son organisation occidentale, est retourné à la barbarie ancestrale. Le Japon prolétaire socialiste et révolutionnaire, dont le sacrifice des 12 héros tombés hier pour la cause de la révolution incarne seul maintenant la civilisation dont il est la sentinelle perdue au milieu de la sauvagerie asiatique de ses dirigeants. Et c'est de nouveau un article de Jean Longuet. Je voudrais... Vas-y.
Intéressant le paragraphe, on a imprimé un article de la revue Ballast qui parle de cette personne, qui décrit son histoire, et l'article qui parle de pourquoi ils ont fini incarcérés. C'est juste un paragraphe, je veux bien le lire. Du coup, c'est écrit Il, Kotoku, Sugako et trois camarades parlent d'attaquer à l'explosif le véhicule impérial. Deux d'entre eux se renseignent, étudient puis confectionnent une première bombe à la fin de l'année 1909. Elle saute en guise de test dans les montagnes du centre du pays. Mais Kotoku doute. Du moins montre-t-il quelques signes de relâchement. Il se tient désormais à l'écart du projet si l'on en croit son biographe américain Notehelfer, affiche des signes de dépression, songe parfois au suicide. Kanson Arahata, futur membre du Parti communiste japonais, lui écrit pour lui faire savoir qu'il devrait le tuer, reniement de la cause oblige. Les larmes montent aux yeux de Kotoku. Il lui répond qu'il accepte de tomber sous ses balles. Il dit « J'ai été un lâche et j'ai tergiversé, incapable de prendre une décision nette. » Il vit dans l'angoisse et sa compagne, qui ne l'est visiblement plus, compte toujours mener l'action à bien. La police, parvenue jusqu'à eux, arrête Kotoku au mois de juin 1910. Le procès débute 6 mois plus tard. 26 inculpés, tous accusés du crime de lèse-majesté, article 73 du Code pénal. Kotoku est présenté comme le porte-voix, héros et symbole du mouvement socialiste, libertaire et révolutionnaire. Et c'est bien sûr à travers lui, cette zone politique dans son entièreté, que le régime entend condamner. Le procès se mène en secret, à huis clos, comme on a lu avant, et la presse a consigne de se taire. Il s'achève le 18 janvier 1911. On parle parfois de l'affaire Kotoku. L'anarchiste surprend par son calme et sa tenue, un pantalon large et une veste traditionnelle d'époque féodale.
Pour terminer, toujours de l'article de Ballast, on raconte qu'une lettre signée de la main de Sugako, rendue publique en 2010, donne à lire que son conjoint n'était au courant de rien. Sans doute tenait-elle à le sauver ainsi. Les autorités japonaises ont toujours refusé la révision collective du procès en dépit des nombreuses défaillances. L'innocence de Kotoku continue ici ou là d'être clamée et défendue par Alternative Libertaire en 2008 par le géographe Philippe Pelletier. 7 ans plus tard, il cite « La non-application de Kotoku semble avérée et confirmée par la quasi-totalité des historiens japonais ». Par Christine Lévy, maîtresse de conférences spécialisée sur le Japon, je cite « Les différentes études historiques corroborent l'innocence pour 21 des militants. Kotoku lui-même n'aurait pas été condamné s'il avait fallu apporter les preuves de sa participation, à quelque degré que ce soit, à ce projet. Pourtant, jamais le procès ne fut révisé. Dans cette affaire, une unanimité se dégage, des études historiques pour considérer que Kotoku fut accusé à tort. » Au passage, comme Francisco Ferrer du dernier CLS. À 20 mètres de la tombe, sous le ciel bleu ou vert, un panneau indique en japonais et en anglais que Suishu Kotoku fut le chef de file de l'incident de haute trahison, l'homme qui joua un rôle majeur dans l'introduction de l'anarchisme au Japon. Sa trop courte vie, social-démocrate, socialiste, communiste et anarchiste, il n'est pas vain de penser qu'une certaine vérité théorique et pratique patiente entre ses voies comme une éthique de l'entrelacs.
C'est tout bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le CLS et à tout bientôt.
Quand j'ai pas d'uniforme, préfère au fond la porte du